Radio Spirale. Lakis Progidis présente Nikos Kachtitsis, un romancier montréalais d'origine grecque de plus en plus célébré en Grèce, mais qu'on connaît encore trop peu ici. La conférence s'est déroulée à la librairie Olivieri le 24 novembre 2010.
Alors bonsoir, bonsoir à tous. Merci d'être venus si nombreux à cette table ronde qui est consacrée à l'œuvre et de Nikos Kachtitsis, j'espère que je le prononce bien, donc qui est plus particulièrement au héros de Gand. Avant de débuter, en fait, j'aimerais remercier évidemment les gens de la librairie Olivieri qui ont la gentillesse de nous accueillir, et j'en profiterai pour dire que non seulement ils font un grand travail de libraire, mais ils font aussi, ce qui m'apparaît extrêmement important, un grand travail de place publique, c'est-à-dire qu'ils sont devenus vraiment un lieu où on peut débattre, penser, réfléchir ensemble, et ça m'apparaît, comme ces lieux-là sont de plus en plus rares, ça m'apparaît très important de le souligner. Donc, merci beaucoup à Olivieri. Je voudrais remercier aussi les gens de Radio Spirale qui enregistre cet événement-là. Il sera de nouveau, il pourra donc être disponible sur le site de Radio Spirale d'ici un mois, enfin vous pourrez, à environ, me dit-on à l'instant. Et écoutez, sans autre forme de procès, je vais me présenter. Mon nom est Pierre Lefebvre, je suis le rédacteur en chef de la revue Liberté. On a consacré donc notre dernier numéro à Nikos Kachtitsis, et je vais aussi vous présenter bien sûr mes invités. Je dirais à tout seigneur, tout honneur. Tout d'abord, au bout de la table ici, Thomas Kachtitsis, qui est le fils de l'auteur, qui, comme son père, en fait, a été un grand bourlingueur, puisque, bon, il est né ici, mais il a voyagé et vécu aux États-Unis, et il est de retour à Montréal depuis quelques années. J'ai aussi, juste à ma droite, Lakis Prodigis, qui est essayiste, critique et aussi directeur, mais je dirais surtout l'âme de la revue L'Atelier du roman. À ma gauche, Monsieur Fred Reed, qui est journaliste, auteur et traducteur littéraire. Et finalement, Monsieur, à l'autre bout, à l'extrême gauche, Monsieur Jacques Bouchard, qui est également traducteur, professeur titulaire de littérature de grec moderne et directeur du Centre d'études néo-hélléniques de l'Université de Montréal. Alors écoutez, je commencerai vraiment, j'entrerai tout de suite dans le vif du sujet, en vous demandant de me parler du héros de Gand, parce que d'une part, c'est un roman qui est atypique, mais c'est aussi un roman qui a eu une histoire atypique. C'est-à-dire que sa traduction française, qui nous parvient maintenant 40 ans après la mort de l'auteur, a eu en fait un long développement, et je demanderais peut-être à la caisse ici qui est à l'origine de cette traduction, de briser la glace.
Merci. Pour être plus exact, je suis à l'origine de la publication du livre, parce que quand je suis arrivé pour un séjour de quelques années ici à Montréal, séjour lié à mes intérêts concernant le roman et l'histoire du roman et l'art du roman, c'est grâce à un ami grec qui habite ici depuis longtemps, qui travaille ici, il s'appelle Dimitris Philippou, qui m'a demandé de faire quelque chose pour notre auteur, notre grand auteur grec. Il est assez connu en Grèce, on lui consacre des numéros de revues régulièrement, on lui consacre des colloques, des rencontres, etc. Donc c'est un grand auteur. Donc il m'a dit qu'est-ce qu'on peut faire quelque chose pour notre auteur. Je dis oui, Dimitris, comme je suis un collaborateur de Boréal, la maison d'édition qui a accueilli l'atelier du roman et co-édité avec Flammarion pendant 4 ans, Je dis, je proposerai quand même, je connais les directeurs, je connais des amis, les éditeurs littéraires, François Ricard, Jean Bernier, peut-être ils seront intéressés. Donc, ça a commencé comme ça, ils m'ont dit, fais un rapport quand même de lecture. J'ai déposé un rapport de lecture et le livre a été accueilli et ils ont passé tout de suite à trouver des traducteurs. Donc on a trouvé des traducteurs, évidemment des vieux amis de Castitis qui connaissaient et l'homme et l'œuvre. Donc voilà, c'était à peu près ça l'histoire. L'histoire et pourquoi on peut dire que je suis à l'initiative de ce projet. Mais ce matin, justement, quelqu'un me demandait, mais pourquoi 40 ans? Pourquoi 40 ans? Je dis, mais c'est tout à fait normal. Il y a des écrivains qui sont découverts 50 ans après ou 60 ans après. C'est ça la vie littéraire. Il y a des écrivains qui sont complètement perdus. Donc, il n'y a pas, on ne peut pas dire que c'est une fatalité. On ne peut pas dire que c'est une grande réussite. Il y a des hasards, comme ça, qui se croisent et on fait qui font qu'à un moment, on déterre une grande valeur. Et je pense que c'est l'essentiel, c'est ça, que nous avons la chance d'avoir devant nous un livre, un grand roman, un roman important, un roman qui sera, d'après moi, inscrit dans l'histoire de l'art du roman, comme une exception, comme sont tous les grands romans, ce sont des exceptions dans cet art depuis 4 ou 5 siècles. Donc ça fait partie de ces exceptions romanesques. Et maintenant, dire plus que ça, ça me paraît quand même parler de choses qui ne sont pas encore lues. Je dis que ce soir, c'est une soirée d'inauguration, c'est une soirée de fête pour moi, c'est une soirée qui me donne l'occasion de remercier Boréal d'avoir accueilli cet auteur. Et de remercier vous, Pierre et Liberté, d'avoir consacré presque, permettez-moi le terme, à l'aveuglette. Quelque chose, un numéro à un auteur qui est complètement inconnu. Et vous avez fait un merveilleux travail, un magnifique travail, présenter des poèmes, traduire des poèmes, recueillir tous ces textes. Donc, comme introduction à l'auteur, je proposerais de commencer par la revue Liberté, qui quand même ouvre le bal. Et moi, je dirais, je resterai justement sur cette, comment dire, appel à la lecture en promettant que je reviendrai plus tard, dans un an, dans 2 ans, je continuerai. C'est un travail de pionnière que je mène avec Castitis. Il y a d'autres livres, et il y a une grande correspondance c'est une correspondance esthétique et pas d'une correspondance de choses intimes. Et donc, il y a un écrivain à découvrir. Je crois que les Québécois, les lecteurs d'ici, doivent sentir un peu heureux d'avoir cette chance de lancer pour le monde entier, au moins pour l'instant pour le monde francophone, un auteur grec inconnu du reste du monde, mais très important pour la Grèce. Pour conclure quand même avec une note légèrement amère, dernièrement, dans le monde entier, la Grèce a mauvaise presse, n'est-ce pas? Et j'aimerais quand même insister sur un fait, et même pour mes compatriotes, que l'argent n'est pas tout. Ici sont venus des gens qui ont passé leur vie dans une cave à faire des livres, à écrire, et en essayant de gagner leur pain, évidemment, il faut gagner notre vie. Mais sans faire trop de bruit, Castitis au moins a produit une œuvre qu'on peut mettre à côté de grandes œuvres de Pessoa, de Gombrowicz ou des écrivains beaucoup plus connus comme Kafka, par exemple. Voilà, merci.
Et cette œuvre, en fait, nous est disponible à nous, gens de Montréal, à nous francophones, grâce évidemment au travail monastique de traducteurs. Et j'aimerais me tourner vers eux parce que, bon, si j'ai bien compris, le parcours de ce travail de traduction a été assez long et sinueux. Puis, en fait, j'en dirai pas plus, mais j'aimerais que vous me racontiez chacun en vos mots, la longue histoire de la traduction du Héros de Gand.
Vas-y, de moi, je suis correct.
Bon.
Effectivement, c'est une histoire qui est un peu longue. On va essayer d'être bref. Pour ma part, ça fait 40 ans que Madame Cartizzi me court après pour que je traduise ce livre. Et toujours, je trouvais toutes sortes de bons prétextes pour dire oui, mais plus tard. Et en fait, nous avons décidé de faire cette traduction, Fred Reed et moi, par amitié. Et nous avions aussi certaines dettes. Fred nous dira, lui, ce qu'il concerne. Mais dans mon cas, j'avais rendez-vous, et tout ça se trouve dans le numéro de Liberté, certains petits détails qui sont plutôt anecdotiques. J'avais rendez-vous avec Cartizis en 1970. J'étais étudiant en Grèce à l'époque. Et il a eu l'indécence de partir une semaine avant notre rendez-vous. Et donc, récemment, je trouvais au fond de mes tiroirs trois lettres de poètes de l'époque et qui c'était les poètes justement qui nous avaient ménagé un rendez-vous. On devait se rencontrer chez un poète surréaliste qui est mort récemment, très âgé, qui s'appelle Gonatas. Et Gonatas, puis un autre poète qui s'appelait Vanil. Et ces deux poètes m'avaient trouvé à Athènes. Puis là, ben, ils ont dit, puisque tu retournes au Québec, écoute, il y a quelqu'un, il y a un écrivain grec qui habite Montréal. Et probablement, vous savez, tous les Grecs entre nous, ils ont toujours une idée derrière la tête quand tu connais le grec, mais tu es francophone ou anglophone, peu importe. C'est que peut-être que tu es un traducteur en puissance. Alors probablement que c'est pour ça qu'on voulait nous ménager un rendez-vous. Et en tout cas, ça ne s'est pas produit. Madame Cartizzi est venue me voir quand je suis revenu de Grèce. Mais j'étais au début de ma carrière, puis là, c'est quand même un travail de moine. Parce que vous allez voir que c'est difficile à lire. Même en traduction française, il y a l'action. Quand on est pressé, là, il faut laisser le livre. Il faut avoir un peu de temps devant soi, puis décider de passer à travers un livre qui n'avance pas. On se dit, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas d'action, etc. Et peut-être que quand j'avais 30 ans, j'ai ouvert le livre et je me suis dit, non, c'est pas pour moi. Peut-être que maintenant, à mon âge, je vous dirai pas l'âge que j'ai, mais quand même, au moins le double. Et là, c'est peut-être que j'avais la maturité pour traduire le livre, le lire d'abord, le traduire. Et tout à l'heure, on se disait avec Lakis à table que parmi ceux qui connaissent le mieux le texte, c'est Fred Reed et moi, parce que là, on a dû l'examiner à la loupe. Même ces erreurs, je dirais même, erreurs, je veux dire, des asyndètes qu'on trouve, des petites fautes dans la suite des temps, par exemple, et qu'on a dû gommer, qu'on a dû traduire, parce que si on avait traduit mot à mot ce qui était là, on aurait dit, mais Bouchard ne connaît pas le français, et Fried non plus. Et donc, on a vraiment travaillé, surtout Fred, parce que on a travaillé de la manière suivante. Fred a fait la première traduction, et j'ai tout repris. Et puis, donc, on a signé communément le texte final, mais c'est sûr que c'est un texte qui demandait beaucoup de travail. On pourrait peut-être dire quelque chose tout à l'heure concernant la langue de ce texte. Peut-être que quand nous avions 30 ans tous les deux, nous étions ce qu'on appelait autrefois démoticistes, c'est-à-dire qu'on était pour la langue populaire. Or, la langue de ce texte n'est pas populaire. Et puis là, on a regardé ça d'un œil torve, et puis on s'est dit, c'est la langue de la diaspora. Et en fait, nous deux, nous avons vécu en Grèce assez longtemps pour savoir que ce qui nous intéressait, c'était la Grèce elle-même, et la diaspora un peu moins. Mais en fait, avec le temps, on replace les choses, peut-être qu'on met un peu d'eau dans son vin ou de vin dans son eau, et puis on finit par apprécier le texte beaucoup mieux que quand nous avions 30 ans. Alors je laisse la parole à Fred, on verra pas plus tard.
Je dois tout d'abord remercier tous ceux qui ont œuvré à la parution de ce petit trésor qui est le livre. Lorsque je l'ai reçu, le premier geste que j'ai posé, ça a été de l'ouvrir et de humer l'encre, comme faisait l'auteur. C'était une de ses occupations préférées. Nous fréquentions pendant 3 ans assidûment des librairies ensemble et il se plaisait énormément, peut-être même à un degré de sensualité très avancé, même de sentir l'odeur de l'encre frais sur la page, n'est-ce pas? C'était une des particularités de l'auteur. Et en sachant cela, lorsque vous lisez le bouquin, peut-être vous allez trouver, n'est-ce pas, quelque chose qui va vous donner une idée de son esprit tout à fait particulier. Effectivement, la traduction de ce livre nous a réunis sur la page blanche. Nous y tenions tous deux. Dans le petit texte que je signe, et je remercie... notre ami Pierre Lefebvre de l'avoir repris. Ce petit texte relate ma relation de courte durée, mais très intense avec l'auteur, quand mon collègue évoque la dette que nous avions envers lui. C'est vrai. Est-ce que j'étais plus âgé que toi? Non, nous avions le même âge. Et notre réaction au livre, un livre difficile, surtout à l'époque où la Grèce nous intéressait. C'était l'époque des colonels, c'était la lutte contre le fascisme en Grèce. L'esprit aurait pu être ailleurs. L'héros de Gand, peut-être ça nous parlait moins à l'époque. Donc, face à des sollicitations à la fois professionnelles et morales que j'avais, je me suis dit non, c'est pas pour moi. Et cela, je dois vous avouer, je le dis par écrit aussi, était à l'origine d'une, comment est-ce que je peux l'exprimer, d'un certain éloignement de nous deux. Donc ce n'est qu'après, avec la traduction de ce livre, que je trouve le moyen de redire face au monde, Madame Cactitis est là, je suis très heureux, finalement, qui a la traduction française de cela, et je peux dire entre guillemets que peut-être la traduction anglaise ne tardera pas tant que ça. Certainement, l'existence de ce livre-là va motiver un éditeur anglais, j'en ai quelques-uns en tête, de faire autant. Donc tout espoir n'est pas perdu, tout au contraire. Ce qui permettrait à ce livre tout à fait particulier, sui generis, de rayonner encore davantage, car nous savons que l'anglais, c'est la langue qui compte, n'est-ce pas?
Oh!
Exactement. Nous n'y étions pas pour l'argent, ni pour la gloire, nous y étions pour l'amitié, mais c'était heureux que cet ami ait pu s'exprimer à travers ces textes-là, que j'ai traduit en premier jet, installé dans une espèce de cellule à l'île de Tinos. Ceux qui connaissent le reste connaîtraient bien cette île-là. J'ai consacré mes matinées, de très longues matinées, où le soleil brillait, mais moi pas, c'était dans la cellule, donc je voyais ça passer par les fenêtres. Ça a pris, oh là là, quelques mois. Un travail très difficile, surtout pour quelqu'un qui ne possède pas le français comme langue maternelle. Et c'est une dérogation à des règles de la traduction. Habituellement, tu traduis dans la langue qui est la tienne, n'est-ce pas? Heureusement que j'avais un contre-lecteur pour réparer plutôt les nombreux petits dégâts. Mais nous croyons que le résultat est tout à fait potable, qui représente une version tout à fait fidèle, non seulement du texte, mais de l'esprit du texte. Sur cela, je suis très heureux de revenir, répondre à des questions et réintervenir, mais il faut laisser du temps à nos invités.
Donc, avant de plonger plus avant dans l'œuvre, j'aimerais me tourner vers Thomas et, en fait, me pencher un peu vers l'homme, parce qu'il y a quand même quelque chose, bon, pour nous qui sommes Montréalais, il y a quelque chose, enfin, moi, personnellement, il y a quelque chose que je trouve très touchant dans le fait que cette œuvre-là a été écrite ici, pratiquement clandestinement. Et Nikos Kastitsis, donc, a été d'abord, si je comprends bien, un grand bourlingueur qui a vécu à la fois en Afrique, en France, qui a fini par s'établir ici. Et ces années montréalaises, en fait, bon, ont donné à la fois ses lettres, à la fois son roman, des nouvelles, etc. Et donc, en fait, je me demandais si tu pouvais nous parler de ton père.
Bonsoir tout le monde. Il faut savoir que j'avais 8 ans quand mon père est décédé. Alors donc, j'étais assez jeune. Je n'étais pas au point où on pouvait s'asseoir ensemble et discuter de choses. C'était plutôt... Les souvenirs que j'ai de mon père, c'est qu'il revenait du bureau et il s'enfermait dans son propre bureau pour passer son temps à écrire. D'ailleurs, ma mère l'appelait au téléphone. Dans le temps, il y avait un code qu'on pouvait signaler sur notre téléphone pour pouvoir faire sonner le téléphone dans la maison. Et c'est comme ça que ma pauvre mère dit à mon père que c'est le temps de descendre et venir manger. Alors donc, vous pouvez vous imaginer qu'avec mon père, étant si jeune, j'ai pas vraiment eu la chance de le connaître comme je commence à le connaître maintenant. Je commence à le connaître plus sur le côté littéraire. Je sais que c'est un grand écrivain et on est très fiers, ma mère et moi, qu'il soit finalement imprimé ou en tout cas traduit dans la langue de mes amis. Je suis né ici à Montréal, je me considère québécois, canadien, grec, un petit peu des trois, un mélange des trois. Et ça me fait plaisir de pouvoir offrir cette œuvre à mes chers amis. J'avoue que j'apprends... Il faut comprendre que ça a pris 40 ans pour que ça soit traduit. Alors donc... Ça a été un peu difficile pour moi de voir ce procès, ce intérêt. On a toujours su que c'était important de produire cette œuvre pour que plus de monde puisse la lire. Mais on pensait jamais que ça allait prendre si longtemps. Madame Kastitsis, ma mère, elle a commencé, comme disait M. Bouchard, il y a 40 ans. Alors, il y a une histoire derrière tout ça qui n'est pas convenable pour ce soir, mais en tout cas, c'est... Sachez, mesdames et messieurs, que je suis absolument ému. Je suis absolument ému qu'il y a eu tellement d'intérêt et après tant d'années, ça me touche beaucoup et je suis fier d'être ici et je suis content de faire partie de cette table ronde qui parle de Nikos Kastitsis.
Merci. Donc, en fait, j'aimerais savoir, et là je m'adresse à tout le monde. Tantôt on parlait de la diaspora grecque et ça m'a rappelé un de mes écrivains favoris, et Vitole Gombrowicz, qui est un autre exilé, un autre diasporé, si je puis dire. Et je me demandais justement dans quelle famille est-ce qu'on peut inscrire Kastitsis. C'est-à-dire que tantôt, on a évoqué Kafka. Dans le texte de présentation, dans la postface du livre, on évoque Robert Walser également. Et donc, pour des gens qui ne connaissent absolument pas cette œuvre, quelle est la famille, quelle est la constellation dans laquelle on peut l'introduire?
C'est assez difficile de mettre cet auteur dans un cadre précis. D'ailleurs, il y a deux textes de moi, la postface dans le livre et le texte dans Liberté. Et vous allez voir que je mentionne d'autres auteurs dans la préface et d'autres auteurs dans le texte pour la Liberté. Texte écrit à un mois d'intervalle. Mais... dans le contexte du premier texte, je trouvais qu'il fallait faire référence à ces auteurs-là et dans l'autre, à ces auteurs-là. Parce que Le premier qualificatif littéraire de Kastitis, c'est son éclectisme. On peut l'imaginer amoureux de Kafka et amoureux de Murakami, comment elle s'appelle, l'auteur japonaise du 11e siècle, qui écrit, qu'on dit l'histoire littéraire, le premier roman japonais, mais il est très, très épris de cet auteur pour son érotisme latent. Il était vraiment, il dit, voilà, c'est mon auteur. Mais il se réclamait aussi d'un auteur pratiquant orthodoxe, un grand auteur, peut-être le plus grand auteur grec, Alexandre Papadiamantis. Donc Kafka, Papadiamantis, une japonaise du 11e siècle, vous voyez tout de suite l'anarchie totale et l'attachement à des valeurs qui seulement lui pouvait imaginer de mettre ensemble. Et c'est ça qui fait la beauté de son œuvre. C'est mettre ensemble des choses qui, pour l'œil ordinaire, ne se marient pas, ne se marient absolument pas. Pour Kastitis, c'était possible et c'était sa littérature. Et ça va jusqu'à, je ne sais pas, un sentiment d'être devant une menace énorme et se comporter avec un sentiment de naïveté, d'innocence, d'infantilité, quoique cette menace est très pesante. Je crois que vraiment c'est une réussite totale. On peut même imaginer que c'est un prophète. Je vois un peu notre monde à la manière de Kastitis aujourd'hui. Je le vois comme ça, comme nous sommes des enfants enfouis dans une menace énorme qui pèse sur nous tous, mais nous nous comportons comme des idiots, des enfants, des gamins.
Et est-ce que une des choses qui est aussi frappante justement dans le héros de Gand, c'est que pour un texte d'un écrivain grec, c'est que ça se passe à Gand, et déjà une espèce de Gand complètement fantasmatique. Et ça a été écrit à Montréal. Donc, il y a quelque chose là aussi qui me rappelle Gombrowicz, c'est-à-dire que malgré le fait que ça soit écrit en grec, que ce soit un auteur grec, il semble y avoir une certaine distance vis-à-vis de sa culture d'origine, une espèce de distance ironique peut-être, et je me demandais, vous qui connaissez bien justement à la fois l'œuvre et la littérature grecque, si vous nous pouviez...
Ce qu'il faut dire d'abord, c'est que Kastitis n'a pas visité Gand, a toujours refusé d'aller voir commencer à Gand, la ville. Et je souligne dans mon petit texte qu'il y a peut-être certains points communs avec Montréal, au fond. C'est-à-dire que c'est une ville fantasmée plutôt qu'une ville visitée. Mais je voulais revenir sur un autre sujet qui me semble important, c'est l'histoire de la diaspora. Quand Fred a connu Kastitis, et quand j'allais le connaître et qu'il a eu l'idée de partir pour un autre monde meilleur, paraît-il. En fait, c'était un écrivain de la diaspora. Et la différence entre les deux est la suivante. Il y a un poète grec qui est toujours vivant, un poète surréaliste qui s'appelle Valaoritis, Nanos Valaoritis, qui a écrit quelque chose d'intéressant sur le fait d'être un écrivain de la diaspora. Alors, il dit la chose suivante. Tout poète grec, tout écrivain grec qui vit quelque part sur la planète rêve d'une seule chose, c'est d'être reconnu dans sa patrie. Même s'il vit aux antipodes, ce qu'il veut, c'est la reconnaissance, comme dit Cavafy, les éviers, les bravos de sa patrie. Et en fait, si un écrivain à une audience locale, comme par exemple, Kastitis de son vivant était connu de quelques personnes ici, des gens comme Fred ou des gens, des Grecs qui habitaient ici. Là, c'est un écrivain de la diaspora. Et dans ce temps-là, on peut dire que c'est un écrivain ou bien canado-grec ou gréco-canadien, un autre sera américano-grec ou quelque chose comme ça. Mais à partir du moment où le grec en question qui vit aux États-Unis, en Australie ou n'importe où, réussi à se faire connaître et surtout reconnaître des milieux littéraires de Grèce, ce n'est plus un écrivain canado ou un gréco-canadien, c'est un écrivain grec qui habite provisoirement à l'étranger. Or, c'est peut-être le seul, et en tout cas le premier, des écrivains grecs qui habitent au Québec ou même au Canada, qui a réussi à passer cette barrière et à devenir un écrivain grec qui a habité à Montréal pendant quelques années. Donc, c'est un statut assez particulier, parce que ici, en tout cas à l'Université de Montréal, nous avons traduit des poètes, les poètes grecs, il y a un certain nombre de poètes grecs qui habitent Montréal, on les a traduits il y a une quinzaine d'années, puis là, il y a mes étudiants qui sont ici, qui sont en train de traduire les poètes vivants, ici, mais là, alors là, ce sont des poètes de la diaspora, ce sont des poètes, au mieux, gréco-québécois, au pire, canado-québécois, ou encore nord-américains, tout ce qu'on veut. Mais en fait, chacun, même le plus petit poète, espère toujours avoir une reconnaissance dans sa mère patrie et devenir enfin un poète grec qui habite l'étranger. Je ne sais pas si Fred veut ajouter quelque chose.
Je ne peux que m'aligner sur cette façon de voir l'auteur. Je suis d'accord avec cela et j'étais témoin pendant les 3 ans qu'on durait notre amitié jusqu'au seuil de sa mort presque, de ses efforts justement. Il a dû mener des batailles très très rudes, des batailles littéraires, on s'entend, mais extrêmement rudes, d'une rudesse verbale. Et lorsque la correspondance de Caractitis sera publiée, vous en serez témoin, n'est-ce pas, d'une plume bistouri. Qui peut tirer le sang sans qu'on sache qu'on s'est fait couper, si on s'est fait blesser de très mauvaise façon. Donc il avait cette qualité-là, il n'y a pas de doute. Il avait aussi une très grande générosité, c'était mon cas à moi. Je venais de m'installer à Montréal, je suis parti de la Grèce. Je parlais le grec, je me suis installé à McGill, j'ai fait quelques conférences, et suite à une de ces conférences-là, je reçois une note écrite dans son écriture, ce que j'ai appris, son écriture typique, patte d'araignée, comme on pourrait dire, patte de mouche, m'invitant à aller à sa rencontre, ce que j'ai fait. Et c'était la reconnaissance presque immédiate. J'étais très flatté par cela, car je reconnaissais en l'homme cette vaste culture, pas seulement livresque, mais aussi de la vie qu'il avait menée. Et presque aussitôt, il m'a introduit à son œuvre, les livres qu'il avait écrits auparavant, et j'ai été témoin justement de ces luttes pour se faire reconnaître, pour asseoir sa réputation en Grèce, qui a été entachée par ses ennemis. Est-ce que ses ennemis étaient véritables ou est-ce qu'ils étaient des ennemis imaginés? Là, je n'ai pas pu comprendre à l'époque. Et je dois vous avouer qu'aujourd'hui même, il se peut qu'un aspect de tout cela, c'est aussi une œuvre de fiction. Toujours est-il que la correspondance est extrêmement révélatrice de l'esprit de l'auteur, tout comme le livre l'est. Je persiste et signe en disant que c'est un livre sui generis, il n'y a pas un autre comme cela. J'étais témoin de sa production, faite à frais d'auteur, ici à Montréal, avec une couverture en velours, un papier velours, qui se palpait presque autant qu'il se lisait. Une couverture de couleur mauve. C'est aussi un indice de l'esprit. Certains auraient dit peut-être tordu, mais de l'esprit tout à fait particulier de cet auteur-là, qui avait un goût pour, d'une certaine manière, pour l'extravagance, mais avec un retenue. Deux aspects contrastants. Le livre reflète, à mon sens aussi, cela. Je ne suis pas sûr que je partage pleinement l'avis de M. Progidis à cet égard. Ce que je retiens du héros des gants, c'est que beaucoup est vu dans ce livre par le trou de la serrure, qui est aussi la façon dont l'auteur voyait le monde. Je retiens le témoignage de son fils. Nous étions voisins pendant X temps. J'étais très fréquemment dans son bureau avec lui, et effectivement, ça a été un huis clos. C'était lui, son invité, qui était parfois votre humble serviteur, mais surtout ses livres, sa correspondance. Tout se passait à l'époque par l'écrit, hein? Téléphone très rarement, l'Internet, on n'en parle pas, ça n'existait pas. Donc il y avait une densité presque virtuelle, quoique le monde virtuel n'existait pas. Et par quelques trous de serrure, il voyait vers l'extérieur. Comme dans ce livre-là, le protagoniste entrevoit, justement par ce trou-là, quelque chose se passer, mais qu'à la fin lui échappe, car se déplace dans la chambre d'à côté. Je vous souhaite bonne lecture à cet égard. Et la deuxième proposition que j'aurais à vous soumettre, c'est que la maîtrise de l'auteur, pour moi, se trouve dans la façon dont il traite le temps. Pas le temps qu'il fait, fait beau, fait mauvais, fait froid, fait chaud, cela aussi, mais de la manière dont il a réussi à ralentir le temps, jusqu'à ce que celui-ci se fige. Donc, je vous souhaite aussi, lorsque vous lisez le livre, de prêter attention à cette maîtrise du temps. La longue phrase qui se développe avec une lenteur presque... qui arrive presque à l'immobilisme. Mais pas tout à fait. Il y a toujours quelque chose qui va peut-être se passer. Et cela vous retient l'attention. Lorsque je faisais la traduction, j'avais hâte de terminer la phrase, mais je savais que lorsque je vais terminer, j'aurais une autre phrase comme cela, ainsi de suite. D'où la fascination. Donc, comme travail, c'était palpitant, mais les palpitations étaient très, très lentes.
Ouais. Vous vouliez répondre?
Non, pas répondre, mais nuancer, oui. Légèrement nuancer. D'abord concernant la première intervention, évidemment, je connais très bien cette thèse de Valaoritis, qu'est-ce que la littérature de la diaspora grecque. C'est toujours une littérature qui aspire à la reconnaissance de la mère patrie. C'est une thèse comme une autre, n'est-ce pas? Mais si on généralise, on peut dire, voilà, le cas de Kakhtitsis doit être inclus là-dedans. Donc il y a deux éléments quand même qui nous obligent à nuancer cette intégration de Kakhtitsis dans ce sentiment général qui a sa valeur, n'est-ce pas? Ça existe, mais je pense que pour toutes les communautés c'est à peu près la même chose. La première œuvre littéraire de Kakhtitsis est écrite en anglais. Directement, il avait 23 ans, et c'est un recueil de poèmes, directement en anglais. Un enfant grec, pas d'une famille bilingue. Il a appris l'anglais, il était fou amoureux de la poésie anglaise, il a composé son premier recueil de poèmes directement en anglais. Ça, c'est un élément pour montrer qu'il était encore en Grèce, mais son esprit cosmopolite, il était en dehors de la Grèce. Il aimerait le pauvre être reconnu par ses confrères poètes anglais. Il n'écrivait pas pour le public grec, quand même. Il est parti au Cameroun, il a fait son itinéraire, disons, un peu de quelqu'un qui cherchait du travail, il s'installe ici. Et deuxième élément qui, quand même, rend difficile l'idée de l'intégrer dans ce sentiment de demander la reconnaissance de la Grèce, c'est justement sa cave, c'est l'installation de son imprimerie d'amateur. On n'imagine pas un laboratoire du livre pour ses amis, pour tout le monde, parce qu'il est allé aux États-Unis pour chercher des plombes. À l'époque, c'était une imprimerie manuelle. Donc, installé, c'est-à-dire, c'est une installation, c'était son pays. Son pays, c'était le livre. C'était son laboratoire. Aucune reconnaissance de la Grèce n'inspirait à la reconnaissance de son propre travail. Il travaillait pour imprimer, il faisait des revues littéraires. Il imprimait en anglais, en français, c'est tout ce qui l'impressionnait pouvait être objet de son intérêt. Donc, il faut nuancer. Il ne faut pas penser qu'intégrer Cactitis dans cette idée d'une reconnaissance à partir de la mère patrie, moi je pense que ça n'aide beaucoup. Ça n'aide pas du tout. Il y a un troisième élément, je crois que c'est le plus important, c'est que c'est impossible de faire une lecture exotique de ces livres parce que la Grèce n'existe pas dans ces livres. Et dans tous ces livres, il n'y a pas la Grèce. C'est ce qui aspire un peu à voir un peu de soleil, un peu la mer, un peu non, nous ne trouverons rien. Même les noms des personnages ne sont pas grecs. Il n'y a rien. C'est le livre, par excellence, dégrécisé. Il n'y a aucune Grèce là-dedans. Aucune. Il y a juste une petite allusion, en rentrant, fait un long voyage, le protagoniste, et en rentrant à son ville, à Gand, il passe par son village, on comprend que c'est son village. Voilà, c'est une salutation, et c'est plutôt faire adieu que aspirer à être intégré dans cette reconnaissance. Donc ça, c'était pour la première intervention. La deuxième intervention, je crois que c'est beaucoup plus délicat, c'est-à-dire... Il faut choisir, quand on a affaire avec un livre, on entre dans, on le valorise par le microscope, c'est-à-dire on prend le microscope du traducteur et on voit comment, quel est le rapport au temps, comment la phrase évolue, etc. Ça c'est la première étape, disons, nécessaire, c'est-à-dire si on ne passe pas par ça, il n'y a aucun contact avec les livres, on n'est pas touché. Moi je parlais quand je dis que c'est l'espace romanesque où l'auteur marie des choses qui ne se marient pas, j'essaie de dire une généralité pour faciliter la lecture d'une œuvre très 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 bizarre, mais facile à lire, parce que c'est un roman d'espionnage, c'est tout. C'est un roman d'espionnage, ça se lit comme un roman policier. Il n'y a aucune difficulté. Moi, je ne trouvais aucune difficulté, ni dans la lecture en grec, ni dans la lecture en français. Absolument. Et l'intrigue est passionnante. Je trouve que c'est vraiment passionnant. Je ne trouve jamais, à aucun moment, je n'ai senti, mais qu'est-ce qu'il se passe ici, qui a raison, qui n'a pas raison. Non, c'est captivant d'un bout à l'autre. Donc, c'est une lecture de quelqu'un qui met les livres dans un contexte beaucoup plus général, dans un contexte avec ses confrères. Vous avez mentionné Gombrowicz. Moi, je crois que c'est très, très proche de cet univers. Mmh. Ben, c'est un Polonais qui a craché sur la polonité. Moi, je crois que s'il rencontrait Cactitis, ils seront d'accord avec le craché pour la Grèce aussi, donc, sur la Grèce. Donc, s'il n'y avait pas de rapport avec la question de la langue. Il a commencé, pour terminer, je termine là-dessus, il a commencé à écrire le héros de Gand en anglais.
Mais ça me fait penser, vous citez Gombrowicz, une de mes phrases préférées, et il disait, pour devenir polonais, il faut cesser d'être polonais. Donc, on pourrait peut-être se dire que Cactitis, pour devenir grec, a décidé de cesser d'être grec, mais je me demandais, justement, parce qu'il y a une longue tradition, bon, on parle de Gombrowicz, on pense évidemment à Thomas Bernhard, d'écrivains qui ont des rapports extrêmement troubles, tendus et ambigus avec leur culture natale. Est-ce que Cactitis faisait partie de ce lot de gens qui avaient vraiment une relation féroce, on pourrait dire d'amour-haine avec leur langue et leur culture natale?
Moi, je suis un peu vicieux, je vais revenir sur la diaspora. Parce que voyez-vous, la différence, c'est que Fred et moi avons connu l'œuvre il y a 40 ans et plus, à une époque où Cactitis n'était pas connu en Grèce. D'imprimer ça dans sa cave ou imprimer ça ici, imprimer un roman comme celui-ci, c'est quand même beaucoup de pages, là. Ici, à un journal local, ça veut dire qu'il avait une audience locale. Mais que depuis 40 ans, c'est-à-dire que quand Madame Cactitis est venue me proposer de traduire ce texte, ben évidemment, c'était un texte écrit par un grec local de Montréal. Et c'était une œuvre comme je voyais la chose, là. Je vous dis, quand j'avais 30 ans, là, je voyais la chose comme comme d'autres Grecs ici qui habitent Montréal et qui appartiennent à la littérature de la diaspora. Et justement, je parle de littérature de diaspora parce qu'il y a des thèses d'universitaires sur, par exemple, la littérature grecque de la diaspora américaine, ou que ce soit écrit en anglais ou en grec. Alors, justement, Valauritis, Lakis le sait, Valauritis lui a regimbé quand quelqu'un l'a traité, justement, de poète de la diaspora. Je dis, moi, je suis pas un poète de la diaspora, je suis un poète grec. J'ai habité aux États-Unis, mais j'ai habité à Paris avec Breton et tous les autres à l'époque. Je suis un poète grec, je me promène sur la planète, mais je suis pas un poète de la diaspora. Alors, la différence, c'est que maintenant, entre-temps, par exemple, au fond de mes tiroirs, j'ai trouvé les lettres de Gonatas et puis de Vanille, qui ont publié justement les lettres qui à l'époque c'était une correspondance. Par exemple, Gonatas n'a jamais connu en personne Kachtitsis, mais ils ont échangé pendant des années beaucoup de lettres. Alors ces lettres-là, tout à coup, sont publiées en Grèce. Il y a eu des gens qui se sont intéressés à son œuvre. Il y a une bibliographie maintenant de Kachtitsis qui n'existait pas il y a 40 ans. Donc ça veut dire que post-mortem, cet auteur qu'on aurait pu croire il y a 40 ans que c'était un auteur de la diaspora, tout à coup est devenu un auteur grec qui a habité à Montréal comme par hasard. Mais je pense que notre apport à Fred et moi dans cette histoire, c'est que nous allons permettre à nos compatriotes québécois, montréalais, d'avoir accès à une œuvre d'une certaine importance et qui a été en quelque sorte marginalisé à cause de sa langue, qui était d'une discrétion, il y a pas beaucoup de Grecs qui l'ont lu, parce qu'il y avait pas beaucoup d'exemplaires. Madame Kachtitsi m'en avait donné quelques exemplaires à l'époque, mais ça veut dire qu'il en restait déjà un certain nombre, la distribution était très, très restreinte. Et ça veut dire que c'est maintenant que c'est un auteur connu en Grèce, il y aura des thèses sur lui. Et je voulais justement dire à propos de la traduction, Fred probablement sera intéressé à faire la traduction anglaise, mais il y a une traduction qui probablement se termine à l'heure actuelle en flamand. Parce que celui qui nous a mis dans cette galère, c'est un jour, un collègue belge me téléphone et me dit, je viens à Montréal, est-ce que je peux faire un séminaire chez vous? Ah ben, je veux dire, à deux jours d'intervalle, qu'est-ce que je peux réunir? Nous étions quatre, je pense, exactement les quatre qui sont ici, à ce séminaire, et le Belge en question nous dit, ben écoutez, comment j'ai été amené à faire une communication sur ce... Il a envoyé un exemplaire à Gand, à la bibliothèque universitaire, avec une dédicace écrite en flamand, un flamand un peu bancal. Mais il dit, ça a attiré mon attention, j'ai commencé à lire le texte, c'est un texte intéressant, et le Belge en question, il enseigne à Gand. Il a dit, mais Gand, c'est plat, le plat pays qui est le mien. Il dit, quand je viens à Montréal, je vois qu'il y a une montagne au milieu, et comme par hasard, ça ressemble pas mal à Gand du roman. Avec les canals de la Chine, avec etc., vous allez voir qu'il y a certains clins d'œil. Et même les trains de banlieue où on part pour Citerre, comme dit le poète, ben, vous allez trouver tout ça dans le roman. Donc, nous devons à ce flamand qui est venu nous parler de Kachtitsis et qui lui s'est dit, mais c'est un roman intéressant. Alors Fred qui m'a fait la proposition, pourquoi on ne le traduit pas là, tous les deux, là, hein, par amitié, et puis aussi pour nous dédouaner de certaines, lui de son côté, et moi, parce que je devais quelque chose à Madame Kachtitsis, qui me poursuivait depuis 40 ans. Alors voilà que on a commencé il y a 40 ans avec un écrivain de la diaspora, et aujourd'hui on est en face d'un écrivain grec qui a vécu à Montréal. Donc l'honneur jaillit aussi sur Montréal. Fred.
Entrer dans une querelle de définition d'auteur, c'est intéressant, c'est même fascinant, et même, pour employer un mot que j'ai déjà utilisé, palpitant. Et peut-être la parution maintenant, à coup sûr, même la parution de ce livre en français va permettre à ce livre justement de quitter le petit cercle de la littérature grecque et d'accéder, comme dit si bien notre collègue Monsieur Progidis, à un niveau supérieur où les comparaisons peuvent commencer à se faire. Ce terrain reste à explorer. Feu l'auteur Caractitis était à l'origine un auteur de la diaspora, c'était formidable. Mais je peux vous témoigner des attaches extrêmement serrées qu'il maintenait avec ses collègues en Grèce, des poètes, des romanciers. Il était extrêmement influencé par un écrivain grec qui n'est pas à ce que je sache. Vous allez me corriger, Nikos Gavril Pedzikis, un écrivain plutôt surréaliste de la Grèce, dont j'ai traduit un court texte pour faire paraître dans son revue le Palimpseste, au Palimpsestos, qu'il imprimait aussi à frais d'auteur dans son sous-sol, dans son atelier typographique. Le Palimpseste, ça paraissait en anglais, mais ça référait, ça renvoyait toujours à la Grèce. Nous publions, il y avait deux numéros, d'autres textes qui touchaient, par exemple, le soulèvement de la Grèce contre l'Empire ottoman. C'est un texte que j'ai aussi eu l'honneur de traduire. Et pour revenir à l'anecdote que M. Progidis cite, et je suis très touché par cela, le héros de Gand qui revient de son voyage, de son périple autour du monde, après avoir visité les Indes et l'Afrique, n'est-ce pas, fait un arrêt justement à ce bourg, une petite station balnéaire à la côte ouest de la Péloponnèse qui s'appelle Kyllini, qui n'était pas le pays natal cependant de l'auteur. C'est le pays où se rendait le petit train dans lequel il voyageait Gosse. Son père était cheminot. Et c'est de là où il a eu cet amour du chemin de fer comme lieu de rencontre, comme mécanisme pour nous permettre à voyager, d'aller loin. Et peut-être même, et cela c'est quelque chose qui revient en répétition dans le livre, de nouer des connaissances, surtout avec des femmes. Il y a une belle dame qui s'installe dans le compartiment juste en face de vous, et vous vous mettez à penser ce qu'elle pense de ce que vous pensez d'elle, et ainsi de suite. Ça c'est aussi un peu le style cartésien d'aborder le chemin de fer. C'est très intéressant. Ça peut être le train de banlieue Montréal-Rigaud. Mais je suis persuadé qu'effectivement, c'est le petit train qui menait à Kyllini, qui s'appelait Ririka. C'était son nom. Que les Grecs du lieu le connaissaient, l'identifiaient comme cela. En Grèce, les chemins de fer ont tous un nom particulier. Il y a un autre à la ville de Volos qui s'appelle Mavraki, le petit noir, n'est-ce pas, à cause de la fumée qui crachait. Donc, il y a tout cela. Et je suis persuadé que l'amour qu'avait l'auteur pour le chemin de fer est l'héritage de son père. Mais cela nous plonge pas seulement dans la grécité dans la Grèce, mais aussi dans la particularité de l'ouest de la Péloponnèse, et ainsi de suite. Donc, oui, c'est un livre désincarné. Ce Gand n'existe pas. Est-ce Montréal? Est-ce Gand? Ou est-ce que quelque chose entre les deux? Je ne sais pas. Mais le pays imaginaire qu'habite l'auteur et dans lequel évolue ce livre, pour moi, c'est la sensibilité grecque qui prit ses origines de l'expérience de la diaspora, de cet auteur de la diaspora, et par la suite va se généraliser par étapes. Et je suis très heureux que nous ayons pu vivre ensemble une de ces étapes tout à fait concluantes.
Mais écoutez, on a à peine gratté la surface de cet homme et de cette œuvre complexe, vous commencez à le comprendre, et je me disais qu'on pourrait poursuivre peut-être avec des questions. Je ne sais pas s'il y a des gens dans l'assistance qui auraient des questions à poser à nos invités. Comme on est enregistré à la radio, je vous demanderai à ce moment-là de venir le faire au micro, et je vous dirais bien sûr de ne pas être timide.
Robert Richard, je suis de la revue Liberté et de Concordia. Je n'ai pas lu l'œuvre, pas encore, mais j'ai hâte de me plonger dans ce roman. Petite question au sujet de la langue de l'auteur. puisque je ne connais pas le grec du tout, je ne connais pas les différentes modulations de la langue grecque sur le territoire de la Grèce ou à l'extérieur de la Grèce. Comme on sait ici, le français de Victor Lévy-Beaulieu n'est pas le français du Berraquin, qui n'est pas un français standard non plus, et ainsi de suite. Donc, dans le cas de cet auteur, qu'est-ce qu'on peut dire de sa langue? Est-ce qu'il y a une langue standard grecque moderne, ou bien est-ce que c'est une langue qui est informée par des parlers locaux de... soit de la diaspora, j'imagine, qui a aussi une certaine couleur de la diaspora grecque. Je ne sais pas, en tout cas, je vous laisse parler. Je m'adresse peut-être au traducteur, puisque vous avez justement, c'est la langue que vous avez eu à travailler et à tenter de traduire ça en français. Parce que, petite question de parenthèse aussi, vous avez parlé des temps verbaux. Qu'il y avait des éléments, des temps verbaux qui étaient, comment dire, donc en disjonction dans le grec. Si on le traduisait tel quel, en français, on aurait cru que les traducteurs ne connaissaient pas la langue française, ce qui n'est pas le cas. Sauf qu'une note en votre page aurait pu quand même. Est-ce que c'était au point de départ, donc en grec, une erreur voulue par l'auteur? Voilà, donc... Quelle sorte de grec? Puis oui. Juste cette sous-question sur les temps verbaux, là, ça m'intriguait.
Oui, disons, il y a d'abord la première question, la langue en général. À l'époque où il a écrit, d'abord, c'était l'époque des colonels, pour ce qui est de ce roman. À l'époque des colonels, les colonels, la junte militaire, là, 1967 à 1974, les colonels ont essayé d'imposer la langue savante, qu'on appelle la langue pure, la langue purifiée. Et puis, la langue de la littérature, c'était déjà depuis longtemps, en fait. C'était la démotique, c'est-à-dire la langue populaire. Et c'est difficile d'expliquer à quelqu'un qui s'est pas frotté à ce problème-là, ce qu'on appelle la diglossie. La diglossie, c'est pas le bilinguisme, c'est le fait d'avoir deux grammaires pour la même langue. Et ça veut dire que parfois, on peut habiller la même phrase avec un complet des dimanches, avec des manchettes et puis une cravate. Alors, dans le cas de Cartétis, d'abord, il faut dire que à peu près tous les écrivains, il y a des exceptions, mais les écrivains qui, d'ordinaire, habitent à l'extérieur de la Grèce, je n'ose pas dire diaspora, mais à l'extérieur de la Grèce, ont en général une langue qui est un peu plus conservatrice que ce qui se passe. Au fond, c'est aussi la même chose pour le français. Je veux dire, le français avance dans l'Hexagone puis dans la capitale à une autre vitesse que le français quelque part sur la planète, y compris au Québec. Mais dans son cas, à lui, il a une écriture précieuse qui est, au fond, qui est la langue parlée, mais c'est une langue qui est pleine d'éléments tirés de la langue savante. Et... Bon, c'est sûr qu'on ne pouvait pas traduire pour ce qui est de... Ça, c'est la deuxième question. Par exemple, pour les temps des verbes. En général, les temps du grec s'accordent avec les temps du français et un peu moins avec l'anglais, par exemple. Oui. C'est plus difficile à traduire vers l'anglais, par exemple, c'est-à-dire en anglais, là, on n'a pas les mêmes nuances qu'on peut avoir en grec. Et surtout, c'est pas une question de temps, c'est une question d'aspect. Par exemple, il y a un exemple simple, il y a deux impératifs. Si on dit à quelqu'un « écris-moi », mais ça peut signer, il y a une forme pour dire « écris-moi une fois », mais il y a une autre forme pour dire « écris-moi constamment ». Alors, dans son cas, lui, il a une langue un peu alambiquée, un peu précieuse, qui nous a donné du fil à retordre à traduire. Parce que d'abord, ces phrases sont longues. Et très souvent, d'ailleurs, Fred et moi, on s'était pas mis d'accord, on va traduire ça de telle manière. Alors, il arrivait parfois que Fred avait traduit, il prenait la phrase, là, puis il prenait comme un gant, vous prenez un gant, mais vous le retournez complètement. Alors, Fred mettait ça à sa manière, et très souvent, de mon côté à moi, mais ça, c'est chacun traduit selon sa sensibilité puis ses connaissances. Alors, moi, je reprenais la phrase en essayant de suivre le mouvement du grec, et parfois même, il fallait changer les temps. Et ça, ça a été un problème. Fred a eu raison, justement, de souligner le fait que le problème crucial de tout le roman, du début à la fin, c'est la question de temps. Et il va arrêter l'action presque. Il y a d'autres choses, évidemment, qui se passent, mais l'action n'avance pas. Alors là, il faut traduire les temps, parfois, par exemple, un imparfait par un plus que parfait. Et puis des subjonctifs. Alors là, on a eu vraiment du fil à retordre. Le passé simple. Et aussi, il y a une autre question là. Une autre question qu'on n'a pas abordée. C'est dans quel, par exemple, quand il traduit en anglais, est-ce que c'est de l'anglais américain ou c'est de l'anglais anglais, britannique? Alors, nous, on a pensé que il fallait traduire dans un français qui soit lisible par tout francophone, y compris les Français. Alors là, tout est en français du début à la fin. Mais vous savez que nos amis français, parfois, ne connaissent plus le vocabulaire. C'est une autre histoire. Par exemple, j'ai déjà demandé à 300 Français qui, dans la salle, connaît le mot « safre ». Il n'y avait personne qui connaissait le mot « safre ». Ici, n'importe quelle paysanne du Québec connaît un enfant « safre » et sait très bien ce que c'est. Mais en France, on ne sait plus. Alors, nous sommes appliqués à traduire en français lisible partout, y compris en France, et en essayant de ne pas gommer justement les problèmes, parce que c'est son style. On a essayé de sauver son style, et vous savez que c'est parfois difficile. Si vous voulez traduire en piano une symphonie, ben c'est parfois difficile de garder l'air, peut changer. Si vous voulez jouer ça à l'harmonica alors que c'est joué à l'orgue, ben nous on a une petite flûte à bec là, tous les deux, puis on a essayé de donner ce que c'est, quelque chose d'assez complexe.
Sur cette question de la langue, est-ce que vous auriez des choses à ajouter de l'autre côté? Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle?
Vous avez dit que le roman avait commencé à être écrit en anglais et par la suite en grec. Est-ce qu'on a, par la correspondance, une intuition? Est-ce qu'on sait pourquoi il a terminé l'écriture en grec?
Non, il s'était confié, il dit non, ça marche pas en anglais, je reviens au grec. Non, mais il a indiqué qu'il a commencé, il avait écrit des pages en anglais, il a abandonné, il a repris en grec. Non, on n'a pas des indications plus précises.
Parce que pourtant, comme vous le disiez, en fait, sa première œuvre, donc Vulnerable Point, qui est son recueil de poésie, a été écrit en anglais. Est-ce qu'il y a d'autres tentatives de à part Vulnerable Point qui ont abouti? Est-ce que
non, parce que le corpus est quand même restreint. Hein. Il est mort à 44 ans. Il a écrit 3 nouvelles, 2 romans, un récit romanesque, disons, sur ses aventures pour la publication du premier roman. Donc, ce n'est pas une immensité par rapport au corpus, disons, romanesque. Il y a le corpus épistolaire qui c'est 2 ou 3 fois plus important que le corpus romanesque, c'est tout qu'on a comme œuvre. Donc cette tentative venait au fur et à mesure de ses intérêts. Et il était à l'aise avec les 3 langues. La seule chose qu'on connaît de ses lectures, c'est que en anglais, il préférait lire la poésie. On voit les volumes qui sont rangés dans sa maison, à la bibliothèque de la maison. Pour la prose, c'était plutôt les français. Là, il y avait un choix, disons, en gros, n'est-ce pas? Il lisait la prose en anglais, évidemment, mais en gros, la poésie, c'était l'anglais, la prose, c'était le français.
Cette intervention me rappelle une œuvre fascinante que j'ai eu à lire il y a quelques années, une œuvre de feu Edward Said, vous connaissez, d'auteur d'orientalisme, mais qui a écrit un livre qui s'appelle « Late Style ». Le style soit d'un compositeur ou d'un écrivain à la fin de sa vie, peu importe la longueur de sa vie. Parler de cela dans le cas de Mozart, par exemple, il est mort à 35 ans. Et pourtant, Saïd, il décèle justement cela. Est-ce le cas de l'auteur qui nous préoccupe? Par la force des choses, nous devons conclure que oui. Objectivement, c'était son dernière œuvre. Mais nous sommes libres Et je pense que c'est le travail nécessaire d'interpellation qui nous fait, M. Progidis, de solliciter, de tirer notre intérêt aux possibles ramifications du style de Cactitis et comment il aurait pu, ou même par le biais de ce livre, il va se situer dans le champ de la littérature mondiale, si tel sera le cas, que nous souhaitons évidemment. Mais pour l'instant, je pense que nous sommes obligés de concevoir cette œuvre comme un exemple de ce style tardif, par la force des choses. Et cette force est malheureuse.
D'autres questions? Est-ce que parmi les invités, est-ce qu'il y a des gens qui aimeraient en fait ajouter quelque chose, une note finale?
Moi, j'aimerais juste remercier l'un poète québécois qui a traduit Mélenchon. Oui. Donc, il fallait quand même mentionner cet exploit poétique, littéraire, que je trouve magnifique, cette traduction de sa poésie, qu'on a seulement cette œuvre qu'on a maintenant en anglais, en français et en grec.
Et surtout qu'il a dû faire ça dans des délais très, très courts. C'est vrai qu'il a fait un excellent travail. C'est vrai que Robert Melançon est vraiment à remercier. Il a fait vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc, écoutez, je vous remercie vraiment à tous d'être venus nous entendre ce soir. Je voudrais remercier mes invités. Et je ne peux que vous suggérer assez chaudement de vous plonger dans le Héros de Gand. C'est vraiment une œuvre qui est excitante, drôle, troublante. Enfin, c'est vraiment un étrange objet, mais c'est aussi un objet extrêmement jouissif. Et aussi, pour avoir un autre côté de l'œuvre de Cactitis, on a eu la chance d'avoir des traductions de sa correspondance dans le numéro de Liberté, où là aussi, en fait, on a une description d'un Côte des Neiges absolument onirique et délirant, qu'il faut vraiment le détour. Et donc, enfin, je souhaite une longue vie à cette œuvre-là. Et merci encore d'être venu nous entendre ce soir. Au revoir.